Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, c'est un privilège pour elles, elles nous le disent, de guider deux prêtres qui parlent français. Alors, nous allons en direction d'un quartier, très, très connu pour les gens qui connaissent Mexico, appelé Coyoacán, de l'époque coloniale. Alors, on y retrouve là la maison de Cortés, de Frida Kahlo. Ce sont des gens que je ne connaissais pas. Cortés, oui. Bon, on a entendu dans l'histoire. Pas de façon approfondie, mais Frida Kahlo et Diego Rivera, ce sont deux grands artistes mexicains qui ont vécu une vie très difficile. Alors, c'est des contemporains de Picasso, là, vous savez, de cette école des grands peintres qui vont arriver, qui vont naître à la fin du 19e siècle, qui vont traverser le 20e, mais des vies, surtout Frida Kahlo, des vies très, très difficiles. Des vies traversées par des épreuves, des fragilités aussi psychiques, psychologiques. Alors c'est un art qui exprime à la fois l'être torturé, oui. Je pense que les toiles, surtout de Frida Kahlo, sont des œuvres qui sont difficiles. Il faut avoir, je pense, une explication, ce qu'on a eu, de ce dont je vous reparlerai, on a eu à un moment donné quelqu'un qui nous a introduit un peu à cet art. Diego Rivera sera aussi un grand peintre, différent. Nous visitons des ensembles de bâtiments de cette époque devenus pour la plupart la propriété du gouvernement. De grands arbres à fleurs, des poinsettias. Vous savez, quand c'est l'hiver ici, et qu'on se retrouve dans un pays, bon, c'était pas l'été, là, il faisait quand même frais, mais on voit un peu de nature, des arbres. Je vous rappelle que Mexico est à 2200 mètres d'altitude. Alors, on n'est pas sur les plages d'Acapulco, là. Pas du tout la même chose. Alors, c'est un peu frais. On déambule dans les rues pour arriver à une place centrale, et entrer dans une église, l'église Saint-Juan. Et comme c'est le 2 février, alors c'est le jour de la présentation de Jésus au temple, il y a là une coutume au Mexique, où les gens amènent leurs bébés pour les faire bénir par les prêtres et les diacres. Alors on entre dans cette église Saint-Juan, une église de style un peu baroque aussi, et là, ce sont des familles, les parents, les grands-parents et les bébés pour les faire bénir. Mais également, il y a une tradition, on achète des petits-enfants Jésus enveloppés de langes et entourés de fleurs, que l'on fait bénir aussi, et que les gens ramènent à la maison. Alors c'est aussi une tradition de faire bénir ces petits-enfants, donc c'est l'enfant Jésus. La présentation de Jésus au temple est devenue traditionnellement comme un rite où on se procure un petit enfant, on demande la bénédiction et on l'amène dans sa maison. Alors, on l'amène dans sa maison et on sait pourquoi on l'amène dans sa maison. Parce qu'on l'aime, parce qu'on désire qu'il nous protège, parce qu'on désire la santé de nos enfants, on désire la santé de toute la maisonnée. Alors, c'est cela, le rituel traditionnel de demander la bénédiction du Seigneur. Et puis nous faisons le tour du quartier colonial en petit véhicule, un petit bus. Et là, la personne qui était avec nous, c'est Carmina, parce que Fernanda a dû nous quitter. Elle doit donner un cours privé. Elle nous a quittés en début d'après-midi. Et Carmina continue avec nous ce périple. Alors, nous sommes dans un petit véhicule et on fait le tour. On fait le tour du quartier de Coyoacán. Et, des gens nous donnent des explications de ce que nous voyons. Alors, on voit la maison de Cortés, encore celle de Frida Kahlo, qui est bleue. Un bleu magnifique, quelque chose qui frappe. C'est très, très, très frappant de voir la maison de cet artiste. Alors, et ensuite, on finit par prendre le repas. Alors, les repas, je vous l'ai dit, le repas du midi est assez tard, autour de 15h30. Nous autres, nous ne sommes pas encore habitués. On n'a pas pris du tout l'habitude. Alors, ça commence à gargouiller. Alors, à 15h30, et c'est une grande soupe au poulet, un consommé. Alors, c'est un mets traditionnel, et ça réussit, comme on dit. C'était le temps. Ensuite, remonter de la rue et rentrer à la Fraternité des Prêtres. Nous laissons Carmina. Nous souhaitons une très belle soirée avec ses parents. Je vous l'ai dit, elle doit s'occuper de son père et de sa mère. Et nous nous laissons. Et nous remercions ces personnes de nous avoir guidés tout au long de cette journée. Alors, c'est le moment de se reposer. On se repose. Moi, je fais toujours mes petites écritures. J'écris ce qu'on a vécu. Ce sera le repas du soir, autour de 20h. Alors, c'est toujours la rencontre avec les prêtres qui commencent petit à petit à être plus habitués de nous voir. Parce que, on est des étrangers. Alors, petit à petit, la fraternité se manifeste à travers la joie des uns des autres. On nous demande toujours ce qu'on a fait. Ça les intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait? Et on se surprend de les entendre nous dire, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait là? On ne l'a pas fait, nous. On ne l'a pas encore fait. Ou on va le faire. Parce que il y a des prêtres qui viennent d'Espagne, il y a des prêtres qui viennent des États-Unis, d'autres du Venezuela. Donc, ils sont arrivés et le travail les attendait. Alors, quand le travail nous attend, on n'a pas le temps d'être des visiteurs, là. Alors, ils s'intéressent à ce qu'on dit et ils souhaitent bien un jour voir la même chose. Même le Père Christian. Le Père Christian vient d'une autre partie du Mexique. Alors, de découvrir avec nous et le guide de Guillermo, de découvrir la ville, la cathédrale, le sanctuaire, tout cela était nouveau pour lui. Bon, il y était déjà allé, mais avoir les explications, non. Il ne connaissait pas ces choses. Donc, on se sent privilégié d'avoir eu ces personnes pour nous guider tout au long de cette journée. Et après le repas du soir, c'est encore la prière à la chapelle avec les prêtres qui se termine par la récitation du credo. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Le petit oiseau le réveilla de ses cris, Petit Jean le regarda en souriant. Joyeux, il se leva et sortit voir les poules. Comme il y avait longtemps qu'il ne les avait vus. Pour elles, il revint puiser l'eau au puits dans les profondeurs de la petite chaumière, et les abreuvant, il imitait la dame de la montagne en leur parlant. Tout à coup, il s'aperçut qu'elle était là, à le regarder caqueter avec les poules, et lui cria en riant « Ça n'a l'air de rien, mais c'est la vraie joie !» Elle répondit « Je sais, je sais !» Replaçant le seau près de l'enclos, Petit Jean dit « Le temps est superbe, il est tôt. Je descends au village aujourd'hui. » Sans perdre un instant, elle lui dit « Tu ne descends plus au village, Petit Jean. » Glacé par ces paroles, il resta immobile. Et lorsqu'il revint de son émotion, il demanda « Pourquoi ?»« Ton oiseau ne peut encore voler. »« Quel oiseau ? » celui que tu as ramené de la grotte. Mais je ne pars pas pour toujours. Je reviendrai. Demain, il sera encore là. Tu ne sais rien de demain, petit Jean. Cet interdit le contraria vivement. Elle ajouta, le village n'a plus besoin de toi. Tu lui as tout dit. Mais je peux quand même y revoir ma mère et mon père ? Pas avant la rencontre de l'impossible. Il se sentait coincé dans cet étouffement nouveau de sa liberté. Toujours l'impossible. C'en était vraiment trop. Avec fermeté, il lui dit en la regardant dans les yeux, « Je descends au village. Je serai de retour ce soir. » « Si tu descends au village, tu t'ajouteras au défilé de tous ceux et celles qui rabattent la tête de leurs enfants. » Elle avait deviné ce qui se tramait dans la tête et le cœur de Petit Jean, et lui dit « Tu entends le sifflement de la bière des flèches. » Il fut saisi d'effroi. Elle continua. « Ce n'est ni pour ta mère, ni pour ton père que tu désires redescendre au village. »«
Qu'est-ce que tu en sais ?»
C'est pour la reine. En entendant ces mots, Petit Jean devint furieux. Il explosa de rage et se mit à lui crier.
« C'est toi, la voix maudite et mauvaise. C'est toi la mauvaise flèche. Oui, c'est elle que je veux voir. Elle frappe toujours à la porte de mes pensées et elle ne me quitte pas. Pourquoi veux-tu m'empêcher de la voir? Ne l'as-tu pas envoyée porter la nourriture jusqu'à la grotte? J'ai très bien vu son ombre, ses mains et sa longue tresse rousse. Je descends pour la chercher. » Elle viendra avec moi gravir l'impossible. Non, je ne veux plus pourrir seul dans ma grotte infecte, à n'attendre ni rien ni personne. Je me débrouillerai sans toi, sans toutes tes histoires qui n'en finissent plus de me bloquer la route. Je n'ai plus besoin de toi. »
Silencieusement, elle avait tout écouté cette terrible crise, la pire de toutes. Elle dit simplement, « Pars, petit Jean. Tu es toujours libre. » Mais jamais tu ne verras l'oiseau s'envoler. » Il rétorqua dans sa fureur inextinguible.
« L'oiseau ! L'oiseau ! Ne sera jamais plus capable de voler ! C'est inutile dit !»
Il s'arrêta soudain, incapable de terminer cette phrase, et s'enfuit dans la petite chaumière en courant. C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.